VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire en ce mercredi 13 mai 2015.
Actuellement jugé par la CPI, l'ex-leader des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé porte plainte devant la justice ivoirienne pour violence durant sa détention en Côte d'Ivoire.
On a décidé de déposer une plainte de séquestration et torture entre les mains le directeur de la DST, le sous-directeur plus un autre agent.
Un de ses avocats, maître Jean-Serge Mbougnon.
Inquiétude sur le sort de l'ex-chef de milice congolais Mathieu Ngundjolo, acquitté par la CPI et expulsé vers Kinshasa malgré sa demande d'asile aux Pays-Bas.
Nous avons appelé les autorités congolaises d'assurer que sa sécurité et son bien-être soient garantis.
Ida Sawyer, chercheuse principale de Human Rights Watch.
La Libye, qui a bombardé un cargo turc dimanche, met en garde contre la présence de navires dans ses eaux territoriales.
À Philadelphie, aux États-Unis, 5 morts dans un accident de train de banlieue ayant déraillé.
Et lors d'une conférence sur la pauvreté, ici à Washington, le président Barack Obama a fait le plaidoyer de l'égalité sociale dans l'une des nations les plus prospères au monde.
Avant la Minute Éco et les sports, voici les infos.
Charles Blé Goudé porte plainte devant la justice ivoirienne pour séquestration et violence durant sa détention en Côte d'Ivoire, a annoncé mardi un de ses avocats. Ce proche de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a également emprisonné à la Cour pénale internationale. Affirme avoir subi des violences durant les 14 mois qui ont suivi son arrestation au Ghana. Accusé de violences post-électorales, l'ancien leader des jeunes patriotes pro-Gbagbo avait été arrêté en janvier 2013 au Ghana et extradé vers la Côte d'Ivoire. Il a finalement été transféré à La Haye le 22 mars 2014 à la suite d'un mandat d'arrêt délivré par la CPI en décembre 2011. Maître Jean-Serge Bougnon, joint par la VOA, parle de torture.
Il s'agit en fait des tortures qu'avait subies à l'époque M. Blé Goudé lorsqu'il avait été transféré du Ghana en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez qu'il a passé 14 mois de torture entre les mains de certaines personnes. Et à cette époque, on ne pouvait pas porter plainte parce qu'il était en Côte d'Ivoire, c'était beaucoup plus difficile. Et c'est maintenant qu'avec l'accord de notre client, on a décidé de déposer une plainte pour séquestration et torture entre les mains le directeur de la DST, le sous-directeur plus un autre agent. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a eu beaucoup de tortures. Je vous dis juste qu'il a subi effectivement un ensemble de tortures qui a même abouti à une audition. Et on a brandi un procès verbal d'audition qu'il aurait signé.
Maître Jean-Serge Bougnon, avocat de Charles Blé Goudé, le 11 décembre 2014, la chambre préliminaire de la CPI a confirmé à l'encontre de l'ex-leader des Jeunes Patriotes 4 charges de crimes contre l'humanité, dont le viol et le meurtre.
Un journal local à Kigali rapporte que le président de la commission des médias du Rwanda, institution chargée de l'autorégulation de la presse, a démissionné en raison de la pression du gouvernement. Sur son compte Twitter, Fred Mouvouni a confirmé qu'il se retirait et a remercié ses collègues journalistes pour leur confiance et leur soutien. Monsieur Mouvouni a été parmi ceux qui se sont opposés aux appels pour que les émissions de la BBC au Rwanda soient interdites. Dit après que le média britannique ait diffusé un documentaire controversé sur le Rwanda.
3 Somaliens ont plaidé coupables devant un tribunal de New York mardi pour conspiration en vue d'aider le groupe terroriste Al-Shabaab lié à Al-Qaïda. En plaidant coupables, les 3 hommes évitent la prison à vie et encourent jusqu'à 15 ans de prison. 2 des suspects, Ali Yassine Ahmed et Mohamed Youssouf, ont la nationalité suédoise. Le 3e, Mahdi Hashi, a vécu en Grande-Bretagne avant d'être destitué de la citoyenneté britannique. Ils ont été accusés de voyage en Somalie pour combattre dans les rangs d'Al-Shabaab et de conspiration en vue de fournir un soutien au groupe. Les autorités de Djibouti ont arrêté les 3 hommes en 2012 alors qu'ils venaient de la Somalie et se rendaient au Yémen. Ils ont été remis aux autorités américaines après que le FBI a déterminé qu'ils faisaient partie d'un plus grand complot visant à nuire aux Américains.
Alors que la communauté internationale débat des moyens de secourir les migrants qui tentent souvent à partir des côtes libyennes la périlleuse traversée vers l'Europe, la Libye a mis en garde contre l'envoi sans permission de navires étrangers dans ses eaux territoriales. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Dans un communiqué publié sur Facebook et que cite l'AFP, le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale prévient que les bateaux étrangers ne peuvent pas entrer dans les eaux territoriales du pays sans coordination préalable avec les autorités compétentes. En l'absence d'un tel feu vert, il s'agirait d'une atteinte à la souveraineté de l'État libyen, précise le communiqué. Dimanche, l'aviation de ce gouvernement a bombardé un cargo turc, tuant un marin à bord. Un député libyen a affirmé que le bateau tentait de pénétrer de force dans les eaux libyennes. Selon lui, des bateaux ont pénétré dans ces eaux par le passé pour soutenir les groupes terroristes en leur fournissant des armes et des munitions. Pour sa part, le gouvernement libyen, non reconnu par la communauté internationale, a déploré ce qu'il estime être une agression violente contre le navire turc qui, a-t-il dit, se trouvait dans les eaux internationales au moment de l'attaque.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré avoir eu des entretiens francs sur l'Ukraine, la Syrie et l'Iran avec le président russe Vladimir Poutine mardi, ajoutant qu'il était important de rester en contact. Lors d'une conférence de presse conjointe aux côtés de son homologue russe Sergueï Lavrov dans la ville balnéaire de Sotchi en Russie, le chef de la diplomatie américaine a déclaré que les pourparlers viennent en plein milieu d'une période difficile. Avant de rencontrer le président russe, M. Kerry a discuté avec M. Lavrov pendant plus de 4 heures.
À Philadelphie, aux États-Unis, 5 personnes sont mortes hier soir dans un accident de train de banlieue ayant déraillé, a annoncé le maire de la ville Michael Nutter. Plusieurs unités d'urgence sont intervenues lorsque le train Amtrak transportant quelques 240 passagers a déraillé entre Washington et New York. Plus de 200 pompiers et policiers étaient sur place avec des lampes de poche à la recherche de personnes qui pouvaient être coincées dans l'épave. 6 passagers ont été grièvement blessés. La compagnie ferroviaire nationale a annulé le service entre Washington et New York. Le bureau de la sécurité des transports envoie une équipe d'enquêteurs sur le site de l'accident ce matin pour connaître les causes de la catastrophe.
Et puis le président américain Barack Obama a appelé les Américains à se mobiliser davantage pour lutter contre la pauvreté dans leur pays et combler le fossé croissant entre les classes les plus aisées, la classe moyenne et les familles indigentes. Félix Yepassis Zembrou revient sur la conférence de Georgetown.
S'exprimant à l'occasion d'une conférence sur la pauvreté à l'université de Georgetown, ici à Washington, le chef de l'exécutif américain a élargi le débat. Il n'y a aucune raison que l'une des nations les plus prospères au monde ne puisse pas faire davantage pour renforcer l'égalité, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays a une question fondamentale.
What portion of our collective wealth and budget are we willing to invest?
Quelle part de notre richesse collective et du budget sommes-nous prêts à investir dans ce qui peut permettre à un enfant pauvre d'une ville rurale ou dans les Appalaches ou dans les centres-villes d'accéder à ce dont il a besoin, qu'il s'agisse de conseillers, de réseaux sociaux ou de livres et ordinateurs décents, et ainsi de suite. Bref, ce qu'il lui faut pour réussir. Pour le président américain, personne ne veut être pauvre. Mais les gens naissent souvent dans la pauvreté. Réduire la pauvreté nécessite de la volonté politique et des investissements du gouvernement, a-t-il souligné. Cela va nous coûter de l'argent, ce n'est pas gratuit, a rappelé M. Obama.
Au Népal, encore des répliques ce mercredi après le nouveau séisme d'hier d'une magnitude de 7,3 qui a frappé 2 semaines après celui du 25 avril qui avait tué plus de 8000 personnes. Le ministère de l'Intérieur a confirmé la mort de 65 personnes dans le tremblement de terre de mardi qui a fait près de 2000 blessés. Le US Geological Survey a signalé environ 20 répliques depuis hier. Les secousses ont également été ressenties en Inde où au moins 4 personnes sont mortes et au Tibet où un décès a été signalé.
Et pour un coup d'œil sur l'économie en Afrique et ailleurs, la Minute Éco présentée par Nicolas Pinault.
Baisse de l'inflation en Côte d'Ivoire, 1,4% pour le mois d'avril contre 1,7% en mars, selon l'Institut ivoirien de la statistique. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, représente 40% de la zone France CFA, dont elle est la première économie. On parlait pétrole à Genève, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et ghanéen John Dramani Mahama ont discuté du différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre leurs deux pays. L'enjeu, c'est l'exploitation offshore du pétrole au large des côtes des deux pays. Coton burkinabé, production record attendue pour la prochaine récolte. Le gouvernement burkinabé estime pouvoir récolter 800 000 tonnes de coton pour la campagne 2015-2016. Les autorités de la transition ont augmenté le prix d'achat du kilo de coton pour atteindre 235 francs CFA pour le coton graine, premier choix. Enfin, une usine d'assemblage de tramway, construite en partenariat entre le français Alstom et deux entreprises publiques algériennes, a été inaugurée mardi dans la région d'Annaba, dans le nord-est de l'Algérie. Alger, Oran et Constantine sont déjà dotés de tramways en Algérie et 13 autres projets sont actuellement à l'étude.
Merci Nicolas Pineau pour la Minute Éco. À présent, les sports présentés par Bagassi Koura. Bagassi Koura, bonjour.
Oui, bonjour Nathalie.
En football, demi-finale, retour de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, l'exploit du Bayern face au FC Barcelone hier soir à Munich n'a pas eu lieu. Le Bayern a gagné certes par 3-2, mais c'est insuffisant vu la raclée du match aller de 3-0. Le Bayern est donc éliminé. On s'achemine doucement vers la possibilité d'un classico entre le Barça et le Real Madrid. Les deux géants du foot espagnol.
Et justement ce soir, l'autre demi-finale.
Oui, au stade Santiago Bernabéu, le Real Madrid, champion d'Europe en titre, tentera de remonter son retard de l'aller. La Juventus Turin l'avait battu à l'aller 2-1 sur le club merengue, le plus titré de l'histoire en C1. 10 trophées parvient à se qualifier ce soir. Elle pourrait devenir la première équipe depuis 25 ans à conserver la plus prestigieuse couronne européenne.
Et on reparle de Mr. George.
Oui, l'ancien capitaine de la Lone Star du Liberia, George Weah, a fait son entrée officielle au Parlement de la CDAO. L'ancien joueur du PSG a été élu sénateur du Liberia en décembre dernier. Mr. Weah a prêté serment hier à Abuja.
La saison est-elle finie pour Zerbino?
Oui, l'attaquant ivoirien de l'AS Roma a été touché aux ischio-jambes. Il pourrait manquer la fin de la saison avec son club à la lutte pour une qualification directe en Ligue des Champions. Actuellement deuxième de Serie A, la Roma est à la lutte avec la Lazio à 1 point et avec le Napoli à 4 points.
24e tour cycliste du Togo. La troisième étape de ce mercredi 13 mai s'effectuera sur un parcours de 103 km entre Niamtougou et Bassar. En tennis, résultat de la troisième journée du tournoi de Rome disputé mardi.
Oui, en simple messieurs, deuxième tour, le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, a battu l'Espagnol Nicolas Almagro 6-1, 6-7, 6-3. Le Suisse Stan Wawrinka, numéro 8 mondial, a défait l'Argentin Juan Monaco 4-6, 6-3, 6-2. Et enfin, Kevin Anderson d'Afrique du Sud a battu l'Allemand Philippe Kohlschreiber 3-0 à l'abandon. Et puis pour terminer, quelques résultats des play-offs de la NBA.
Oui, donc pour terminer, donc la NBA, en effet, hier soir, un match au Quicken Loans Arena de Cleveland dans l'Ohio. Les Cavaliers ont infligé la défaite aux Chicago Bulls 106-101.
Salut les amis, ici votre gars Roger Muntou, VOA Afrique. Restez à l'écoute de notre émission aujourd'hui, mercredi, de la bonne musique cubaine. Les amis, écoutez, restez à l'écoute, appelez-nous 001-202-619-3140 et surtout, surtout, envoyez-nous vos messages sur notre groupe Facebook Roger Muntou, La Voix de l'Amérique, RM Show. C'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, inquiétude sur le sort de Mathieu Ngoudjolo, première personne à être acquittée par la CPI et rapatriée hier à Kinshasa, malgré sa demande d'asile. Les autorités néerlandaises n'ont pas accepté la demande du leader du FNI, le Front nationaliste et intégrationniste, qui pourtant avait exprimé des craintes d'être arrêté ou assassiné une fois à Kinshasa. Ses proches disent d'ailleurs ne pas savoir où les services de sécurité congolais l'ont amené depuis son retour. Human Rights Watch a fait un plaidoyer à ce sujet. Eddie Isango a joint la chercheuse principale de l'organisation, Ida Sawyer.
Selon nos informations, Mathieu Ngoudjolo, après son arrivée ici à Kinshasa hier soir, il était amené par le gouvernement à un hôtel ici à Kinshasa en centre-ville où il sera logé pour quelques jours avant qu'il décide où il veut aller. Et nous avons appelé les autorités congolaises d'assurer que sa sécurité et son bien-être soient garantis. Et aussi, on a appelé la Cour pénale internationale, qui a un bureau ici à Kinshasa, ainsi que l'ambassade des Pays-Bas, de également surveiller de près sa situation, aussi longtemps que nécessaire, d'assurer sa sécurité ici en RDC Congo.
Est-ce que vous avez fait les suivis plus tard, parce que nous avons été contactés par des gens à Kinshasa qui nous disent que Mathieu Ngoudjolo aurait été plutôt amené à une destination inconnue.
On a parlé avec lui et avec les services de sécurité ici et son avocat. Et donc, il est à un hôtel ici à Kinshasa. Et selon les informations, il est en sécurité.
Mathieu Ngoudjolo, quand il a été acquitté par la CPI, avait exprimé des craintes pour sa sécurité. Est-ce que vous pensez que sa crainte est justifiée par rapport à la situation en RDC?
Nous espérons que donc, les autorités congolaises vont garantir sa sécurité et on va suivre de près la situation ainsi que d'autres observateurs. Et
on pense que Kinshasa, les autorités de Kinshasa pourraient poursuivre Mathieu Ngoudjolo même s'il a été acquitté par la CPI.
On n'a pas appris qu'ils vont poursuivre Ngoudjolo sur d'autres crimes, mais on va voir.
C'était Ida Sawyer de Human Rights Watch.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
En Centrafrique, le forum de Bangui, considéré par d'aucuns comme celui de la dernière chance, s'est achevé en début de semaine par l'adoption de dizaines de recommandations, dont la prolongation de la transition et le report des élections présidentielles et législatives. Mathias Mourouba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, revient sur le volet justice, une des thématiques débattues au cours de ces assises. Nous l'écoutons au micro de Félix Yepassi-Zembrou.
Le forum de Bangui a été une occasion où le peuple centrafricain a pu s'exprimer librement sur les questions qui touchent à l'avenir de ce pays. Le peuple centrafricain s'est réconcilié avec lui-même et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui a marqué chaque participant et chaque participante à ce forum.
Maître, vous avez présidé la commission justice et réconciliation lors de ces assises. Qu'en est-il justement du volet justice?
Nous avons dit au cours de nos débats que nous pensons qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont commis du tort au peuple centrafricain doivent s'expliquer devant la justice centrafricaine, doivent s'expliquer devant la justice tout court, et que les victimes doivent recevoir réparation de l'ensemble des préjudices en subi. Et nous avons aussi pensé que l'heure est venue pour que tout le peuple centrafricain puisse se réconcilier avec les autres, et que ceux qui sont chrétiens ou musulmans doivent se tenir la main. Et pour marquer cette volonté de réconciliation du peuple centrafricain, nous avons tous accepté de faire légaliser dans les meilleurs délais les deux fêtes, la fête de Ramadan et la fête de Sabati, pour nous permettre aux uns et aux autres d'être ensemble ce jour-là.
Selon vous, la création de la Cour pénale spéciale soit-elle effective?
La Cour pénale a déjà été créée par la loi. Nous attendons la promulgation de cette loi et son opérationnalisation. C'est une priorité pour nous aujourd'hui. Nous pensons que dans les meilleurs délais, la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine sera opérationnel et que les juges et les avocats et le personnel de cette juridiction vont se mettre à l'œuvre pour permettre à toutes les victimes de se faire entendre.
Quand vous parlez, maître de justice, vous pensez implicitement aux anciens chefs d'État, François Bozizé et Michel Dotodia, qui ont été les principaux acteurs de cette crise centrafricaine.
Il n'y a pas que les deux, il y a tous ceux qui ont causé du tort au peuple centrafricain doivent s'expliquer devant la justice.
Maître Mathias Mourouba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, joint à Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Personne à ce jour n'a encore réussi à percer les mystères du virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Mais voilà qu'une équipe de chercheurs canadiens affiliés au centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal affirme avoir identifié un nouveau mécanisme, une sorte d'ouvre-boîte pour forcer le virus à exposer ses parties vulnérables et ainsi permettre aux cellules du système immunitaire de tuer celles qui sont infectées. Pour une explication, Camille Gros-Didier a joint André Finzi, professeur à l'Université de Montréal, qui a dirigé les travaux.
Le VIH, pour se répliquer, il a bien compris qu'il doit cacher ses parties susceptibles d'être reconnues par les systèmes immunitaires. Le VIH, il sait très bien qu'il est en train d'évoluer chez la personne infectée dans un environnement qui est hostile, et donc il essaye de se protéger. Il utilise une sorte de bouclier. Et donc il y a une partie du VIH, c'est la clé qu'il utilise pour entrer dans la cellule, ça s'appelle les glycoprotéines de l'enveloppe. Elles sont à la surface des particules virales, elles sont aussi à la surface des cellules que les virus infectent. Or, le VIH, ce qu'il veut, c'est cacher un maximum. Il ne veut pas que ces glycoprotéines d'enveloppe soient bien reconnues. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est comme une boîte hermétique, parce qu'il essaie vraiment de rester tout petit, exposé le moins possible pour ne pas être reconnu par les systèmes immunitaires.
Et malgré cela, votre équipe a découvert un nouveau mécanisme, vous le qualifiez de sorte d'ouvre-boîte, qui force le virus à exposer ses parties vulnérables.
Effectivement, donc depuis déjà quelques années, ce que nous avons montré ici à l'Université de Montréal, du CHUM où je travaille, c'est que le VIH, pour essayer de se cacher, utilise deux petites protéines qui s'appellent NEF et VPU. Et ces protéines-là, ce qu'ils font, c'est essayer d'enlever du CD4 à la surface de la cellule infectée. CD4, c'est la protéine que les virus utilisent pour entrer dans la cellule. Donc, grosso modo, ce qui se produit, c'est que cette clé que les virus exposent à la surface de la cellule, qu'on nomme les glycoprotéines de l'enveloppe, lorsqu'ils interagissent avec CD4, c'est comme si la boîte hermétique s'ouvre. Tout à coup, on dévoile des composantes que les virus aimeraient garder cachées. C'est pour ça que les virus ont mis énormément d'énergie à développer une stratégie assez complexe pour enlever du CD4 à la surface. Donc une fois que au laboratoire on s'est aperçu que le VIH mettait énormément d'énergie à enlever ces CD4 de la surface pour se cacher, on s'est dit, mais si on lui donnait du CD4 sous une autre forme, des petites molécules qui ressemblent à du CD4, ça ne pourrait pas fonctionner comme un ouvre-boîte et du coup, le virus ne le voit pas venir. On lui donne une petite molécule qui ferait plus ou moins la même chose que CD4 et donc ces glycoprotéines d'enveloppe qui se trouvent à la surface de la cellule infectée, elles vont s'ouvrir. Et si elles s'ouvrent, elles s'exposent des parties que le virus voulait cacher. Et ce que nous avons démontré au laboratoire, c'est lorsqu'on ouvre ces glycoprotéines d'enveloppe, des anticorps qui sont normalement générés chez des patients infectés ou qui sont facilement générés par des immunogènes, donc par des vaccins potentiels, sont capables d'aider l'enveloppe à la surface des cellules infectées et ils sont capables de recruter des cellules qu'on appelle tueuses. En anglais, les mots, ce serait « natural killer ». C'est des cellules qui sont capables de reconnaître des anticorps à la surface des cellules infectées et de tuer la cellule infectée.
Et donc, à terme, ça peut mener non seulement à des traitements, mais peut-être même à un vaccin qui empêcherait la transmission du virus ?
Effectivement, c'est l'idée.
Le professeur André Finzi de l'Université de Montréal. Au Nigeria, les succès de l'armée contre les islamistes armés dans le nord-est du pays n'ont pas été sans dommages collatéraux. De retour chez elles après des années d'exode, les personnes déplacées par les violences ne retrouvent bien souvent que ruines et désolation. Félix Yepassi-Zembro.
Omar Luka est rentré chez lui à Michika, où il a trouvé sa concession remplie de cadavres. Comme la plupart des habitants, il avait fui cette localité lorsque Boko Haram y a pris pied en septembre. Il constate maintenant que les insurgés l'ont transformé en un cimetière.
Quand nous sommes revenus, nous avons découvert que la maison a été détruite. Toutes nos possessions avaient été déplacées et nous ne pouvions pas rester ici parce qu'il se dégageait une telle puanteur de la maison. Nous avons donc cherché à savoir l'origine de cette odeur. Et à l'arrière-cour, l'on a découvert une fosse où des combattants ont été enterrés en masse.
Michika fait partie des nombreuses localités du Nigeria dont les militaires avaient perdu le contrôle l'an dernier à la suite des attaques de Boko Haram dans le nord-est du pays. Michika a été reprise en janvier après que les militaires, aidés par les troupes régionales et des mercenaires étrangers, eurent repoussé les insurgés. Marie-Yuana Kouattri fait partie des personnes revenues voir ce qui reste de leurs habitations et d'éventuels parents. Elle ne sait pas où se trouve son mari. Il était à la maison quand les militants ont attaqué et elle se trouvait à l'église. Madame Kouattri a réussi à fuir Michika, puis elle a continué aussi loin qu'elle le pouvait vers le sud jusqu'à atteindre Yola, la capitale de l'état d'Adamawa, avant de revenir à Michika. Ne sachant où aller, elle dort maintenant à même le sol sur les ruines de sa maison incendiée.
Jusqu'à présent, je n'ai rien à faire. Tout ce que je fais est juste trouver des condiments à cuisiner. Et après avoir fini de manger, je vais juste sous cet arbre me coucher afin de survivre. Je suis en train de construire une case ronde où je pourrais habiter.
La route en direction de Michika est jalonnée des séquelles de la guerre entre l'armée et la secte Boko Haram. Ici, des bâtiments anéantis par un raid aérien. Là, un pont détruit par les militants pour arrêter l'avancée de l'armée. Les habitants comme Polycap, qui aide les voitures à passer le fleuve, prédisent que les cours d'eau de la région peu profond vont se transformer en des torrents pendant la saison des pluies et des villes comme Michika seront coupées du reste du monde.
Ceci est la seule route que nous avons. Si cette route n'est pas reprofilée, nous risquons de faire face au pire. Les choses vont devenir très difficiles pour nous parce qu'il n'y a qu'une seule voie d'accès.
Des dizaines de villes et villages dans le nord-est du Nigeria ont subi autant de dommages que Michika ou peut-être vécu pire. Un nouveau gouvernement va s'installer à Abuja à la fin du mois. Ici, les gens espèrent fortement que la nouvelle administration va faire ce qui est nécessaire pour les aider à reconstruire leur vie.
La Commission européenne devrait proposer ce mercredi sa stratégie sur l'immigration, les grandes lignes de ce texte avec Salwa Jafari.
Lampedusa, station balnéaire, autrefois havre de paix, ne l'est plus depuis longtemps. Des navires militaires patrouillent au large de sa côte, prêts à secourir les milliers de migrants encore préparés à risquer la traversée de la Méditerranée vers l'Italie. Par ailleurs, l'île a dû trouver un logement temporaire pour des dizaines de milliers de migrants avant qu'ils ne soient transportés vers d'autres destinations. Pour les riverains, la situation est insoutenable, nous dit Giuseppe Greco, un pêcheur local.
Je souhaite qu'ils fassent quelque chose, que l'Italie et l'Europe pensent à ce sujet. Espérons qu'ils résolvent le problème bientôt, sinon cela finira mal.
La commission de l'UE devrait dévoiler un plan qui va appeler à partager, à travers un système de quotas, le nombre de migrants légaux dans le bloc européen, afin d'alléger le fardeau des États du sud de la région, notamment l'Italie. Les grandes lignes du projet sont connues, d'autant qu'elles ont été ébauchées devant le Parlement européen. Il entend conforter le rôle de l'Agence de surveillance des frontières, Frontex, amplifier la lutte contre les passeurs, renforcer le système de protection pour les réfugiés, accélérer le retour des illégaux et ouvrir le dossier de la migration économique. Le texte pourrait préciser dès lors que la migration légale serait possible pour des personnes dotées de compétences recherchées en Europe afin de pallier certaines pénuries de main-d'œuvre, quitte sur ce point à prendre le contre-pied d'une partie des membres de la Commission. Écoutez sur ce point le plaidoyer de Federica Mogherini, haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Finalement, l'Union européenne se rend compte qu'elle doit prendre plus de responsabilités de manière très active et rapide. Il faut qu'il y ait un même niveau de prise de conscience de la nécessité de travailler ensemble à l'échelle mondiale, notamment par le Conseil de sécurité, par le
système des Nations Unies et au niveau national. Les chefs d'État n'ont jusqu'ici pu se mettre d'accord sur un projet qui pourrait prendre en compte le taux de chômage, le nombre d'habitants et le nombre de réfugiés dans un pays pour fixer le nombre de personnes qu'ils devraient accueillir.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.
Soyez au cœur de l'info sur